Qui que vous soyez, quel que soit le chemin qui vous a conduit jusqu'ici, la grâce, la paix, vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, maintenant, chaque jour de votre histoire. Alors levons-nous, frères et sœurs, pour chanter Dieu avec le répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début du psautier français. Oui, bénissons Dieu le seul Seigneur. Éternel Dieu, tu es notre Créateur. Il nous est bon de nous en souvenir. Il nous est bon de nous souvenir que tu as créé toutes choses, visibles et invisibles. Il nous est bon de nous souvenir que tu nous les as confiées et que nous participons avec toi à cette garde du monde. Renouvelle en nous la joie et la conscience de cette responsabilité. La terre est à toi et tout ce qu'elle contient. Donne-nous de la servir, de la faire fructifier pour le bien de tous. Donne-nous de poser sur elle avec toi un regard de paix, d'espérance et d'amour. Amen. Poursuivons notre louange par le chant du psaume 62 dans son harmonisation de Genève, donc 62b. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenons place pour entendre quelques versets de l'Épître aux Colossiens. Persévérez dans la prière, dit le rédacteur de l'Épître aux Colossiens. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre horizon si souvent fermé, nous empêchant de remettre à nos proches, à nos enfants, une terre fertile et propre. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre égoïsme si souvent avide, pour nos mains fermées qui saisissent tout ce qu'ils touchent, et qui presse si fort pour vider les ressources naturelles. Ouvre nos mains, Seigneur. Ouvre nos mains à la joie du partage. Enseigne-nous le geste généreux du semeur, de sorte que nous puissions semer des graines sans se demander qui tirera bénéfice des fruits de la moisson. Amen. Oracle qui retentit dans le livre du prophète Jérémie. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Et cette alliance renouvelée de génération en génération nous invite à exprimer notre foi en ces termes. Dieu est amour. Par amour, Dieu notre Père a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend libres et responsables pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisan de vérité et de pardon, parmi nos contemporains, comme artisan de justice et de paix. Dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toutes choses, Dieu est amour. C'est ce que nous croyons. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous ouvrons notre Bible à cette lettre écrite à la communauté des Colossiens, au chapitre 1, nous lirons les versets 15 à 20, Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Voilà, frères et sœurs, le texte sur lequel portera notre méditation ce matin. Et commençons cette méditation par le chant du cantique 213. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Dieu. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Alors ouvre notre cœur et dispose nos oreilles, notre intelligence, tout notre être, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes à l'humanité. Chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à vous baigner dans la Seine ? Probablement pas. Quelque téméraire. Voilà pourtant une promesse qui ne date pas d'hier. Voyez-vous, ce seul exemple pourrait suffire à montrer que nos conditions de vie sont loin d'être les plus saines qui soient. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Jean le Baptiste baptiserait dans le Jourdain. Nous pourrions tout aussi bien parler, évidemment, de la qualité de l'atmosphère, de la qualité de certains aliments, et constater que notre environnement est quand même assez problématique. Les études scientifiques, parfois contradictoires, ne font que confirmer ce que nous constatons à notre échelle, en observant également les variations climatiques, les modifications de la faune et de la flore sur l'ensemble de la planète. Alors, je ne voudrais certainement pas faire un discours alarmiste, juste une prise de conscience, qui prépare cette conférence internationale qui aura lieu en décembre prochain à Paris, une conférence sur le climat, qui devrait réunir 40 000 personnes. L'un des objectifs de cette conférence est d'obtenir un accord pour que l'activité humaine, qui a désormais un impact majeur sur l'atmosphère et donc sur le climat, ce qui explique que nous appelions notre ère l'anthropocène, ça signifie que c'est l'anthropos, l'homme, qui agit tout spécialement sur les évolutions, eh bien, l'objectif est que l'activité humaine ne produise pas un réchauffement supérieur à 2 degrés, ce qui aura déjà quelques conséquences. La Fédération protestante s'implique tout particulièrement dans ce projet, en lien avec les autres cultes français qui ont remis au début du mois un appel au président de la République. À vrai dire, cette démarche n'est pas une nouveauté en protestantisme, qui est sensible depuis des années aux questions écologiques au sens large du terme. Aussi bien par la réflexion de grandes figures, celle d'Albert Schweitzer, celle de Théodore Monod, que par l'activité des théologiens parmi lesquels Jürgen Moltmann en Allemagne, John Cobb aux États-Unis. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les publications théologiques, nous pouvons constater une sorte de croissant fertile qui irait de l'Allemagne en passant par le nord de l'Europe jusque dans les pays anglo-saxons. L'arc protestant. Et tous ces théologiens ont permis de poser les bases de ce que nous appelons, en France, le respect de la création. Aujourd'hui, le respect de la création ne suffit plus. Nous ne pouvons plus nous en tenir à un statu quo, une sorte de modération qui consisterait à maintenir la situation en l'état. Car l'état actuel n'a rien de satisfaisant, comme je le disais à l'instant. Le respect n'est plus suffisant. Si le respect consiste à conserver les choses en l'état, comme on préserverait un tableau en veillant à ce que rien ne change sur ce tableau. Le respect de la création n'est plus suffisant à supposer qu'il l'ait jamais été. Dans cette lettre aux Colossiens, nous lisons que toute la création appartient à cette fratrie dont le Fils, Jésus-Christ, est dit être le premier-né. Cette formulation théologique, cette construction théologique, revient à dire que tout ce qui fait notre terre et l'univers participe d'une condition commune. Ce texte biblique, en tirant toutes les conséquences de la théologie qui professe Dieu créateur, propose une fraternité radicalement élargie. Non seulement les humains, tous les humains sont frères et sœurs, sans exclusive, mais cette fraternité est élargie aux animaux, aux plantes et à vrai dire aussi aux minéraux, aux éléments chimiques constitutifs de notre univers. Toute la création. Le Fils est le premier-né de toute la création, et pas uniquement d'une partie infime de cette création. De fait, le premier récit de la création, en Genèse 1, raconte le geste créateur de Dieu en incluant bien plus que l'être humain. C'est une vision non seulement universelle, qui concernerait tous les humains, mais également cosmique, que la théologie de Genèse 1 assume en présentant Dieu comme impliqué dans la création de l'ensemble du vivant et du non-vivant. Il en découle qu'une fraternité est concevable entre nous et la nature. Alors, cela n'est pas une lubie personnelle, cela n'est pas une innovation de ma part. François d'Assise parlait déjà du soleil comme de son frère. Dans le Cantique des créatures, il s'exprime en ces termes « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. » Plus proche de nous, cette fraternité avec les éléments de la création était bien sûr du goût de Théodore Monod. Laurent Gagnebin raconte que le jour où, pour la première fois, à l'oratoire du Louvre, il a prié pour tous les êtres vivants et pas simplement pour les êtres humains, Théodore Monod est venu le remercier à la fin du culte, non pas pour sa prédication, mais pour cette prière, qui était autrement plus inclusive qu'à l'accoutumée. Laurent Gagnebin, qui, pour sa part, avait milité en faveur de prières d'intercession qui intègrent la nature dans le champ des préoccupations. Cette fraternité dont parle l'Épître aux Colossiens implique le respect à l'égard de chaque composante de la création, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Mais peut-on se contenter de respect au sein d'une fratrie. N'est-on pas appelé à plus que cela en christianisme ? Ne sommes-nous pas les gardiens de nos frères ? Si nous répondons par l'affirmative, nous ne pouvons pas nous contenter d'être un gardien de notre frère comme d'autres sont gardiens de musée, au nom même de cette fratrie dont il est question ici même. Frère en Jésus-Christ, cela signifie que le mode de relation au sein de la fratrie est sur le modèle de ce que Jésus a vécu avec ses contemporains. Et Jésus ne s'est pas contenté de laisser les choses en l'état. Ce modèle relationnel n'est pas simplement fait de respect, Jésus laissant chacun dans son petit univers, tranquille, mais aussi d'amour, d'agapé, cet amour qui prend soin de l'autre, non pas pour le maintenir en l'état, mais pour lui permettre de s'épanouir, pour lui permettre de s'accomplir. Autrement dit, cette épître nous invite à penser notre rapport à l'environnement à l'image du rapport que nous sommes appelés à avoir avec notre entourage. Et pour le dire avec le verbe majeur de la théologie du process, il s'agit d'enjoyer, puisque la théologie du process parle d'enjoyment, to enjoy. Difficile à rendre en français. Enjoyer, ce serait peut-être la meilleure solution, rendre le monde jouissif. Cela pour conséquence que non seulement on ne jette pas ses déchets dans les forêts domaniales, mais on prend soin des nids et des terriers que nous rencontrons. Souvenons-nous, là encore, de François d'Assise, qui, au moment de porter préjudice à un misérable insecte, s'arrête. Albert Schweitzer prend conscience que l'éthique du respect de la vie implique de préserver l'ensemble du vivant. Imaginerait-on que l'Office national des forêts se contente de dresser un cordon de sécurité autour de ses parcelles pour préserver la nature ? Cela n'aurait aucun sens, puisque la nature ne cesse d'évoluer, de progresser, de mourir aussi, de se décomposer, de se métamorphoser, et que ces différentes étapes peuvent être accompagnées par la main de l'homme pour éviter que le plus fort l'emporte sur le plus faible. Je crois que c'est du côté de Rambouillet où il y a une parcelle qui est laissée en jachère depuis l'époque de Napoléon pour observer ce que la nature est capable de faire par elle-même. Et cette parcelle a un écosystème très particulier, mais avec moins de variété que d'autres parcelles qui sont entretenues. Autrement dit, de même que nous agissons auprès de nos enfants, auprès de nos sœurs et de nos frères, biologiques ou non, pour améliorer leurs conditions, nous pouvons agir auprès de l'environnement pour améliorer sa condition. Et c'est en ce sens que nous pouvons comprendre les prières qui intègrent les animaux, qui intègrent la nature. Prier, c'est une manière de se placer face au monde et de prendre conscience de cette fraternité, de cette solidarité qui nous unit et d'être plus responsable à l'égard d'une nature que nous faisons bien souffrir de multiples manières. Sans en faire une chose sacrée, le texte biblique ne sacralise pas la nature. Les textes bibliques envisagent la nature comme un élément qui fait partie intégrante de notre histoire. Un élément qui fait corps avec nous face à Dieu. Parce que Dieu est réputé en être le Créateur, cela signifie que la nature ne nous appartient pas. Nous en sommes les responsables, au même titre que nous sommes responsables de nos frères et sœurs en humanité. Le deuxième récit de la création, en Genèse 2, raconte la création de l'homme, Adam, à partir de la terre, Adama, ce qui montre bien le lien que le rédacteur biblique tisse entre l'univers et l'humain. L'Adam est tiré de l'Adama, la terre. Cela nous sert d'aide-mémoire. Le rédacteur biblique n'imagine pas qu'on a pris de la terre et qu'on en a fait un homme. C'est un aide-mémoire pour que nous nous souvenions de ce lien qu'il y a entre la création et nous. La nature est considérée comme notre enveloppe charnelle, ce qui est tout simplement le simple bon sens. Comme le dit le texte grec de l'Épître aux Colossiens, « tout tient ensemble », ce qui est traduit par Louis II par « tout subsiste », « synistémi », « se tient avec ». Et il est effectivement impossible de mettre une distance entre l'environnement et nous. On n'imagine pas que nous ne soyons pas au contact directement de l'atmosphère. Autrement, nous finirions asphyxiés. De ce point de vue, la nature est notre peau, notre enveloppe charnelle. Et cette fraternité élargie nous conduit donc à envisager notre rapport à l'environnement sur un mode majeur, l'amour, et pas uniquement le respect, si nous comprenons le respect comme une attitude de neutralité bienveillante. Alors cette fratrie, nous le constatons de bien des manières, est mise en difficulté, soit par négligence involontaire, cette insouciance que nous avons parfois, qui nous permet de ponctionner les ressources naturelles ou de dégrader l'environnement sans y prendre garde, soit par intérêt, délibérément, en toute conscience. C'est Jean-Pierre Rive qui repérait que nous avons aujourd'hui de nouvelles indulgences à notre disposition. Quelles sont ces nouvelles indulgences? Eh bien, c'est le droit de payer pour polluer. Certains sont prêts à payer des indulgences pour polluer parce que les pénalités à payer sont largement inférieures aux bénéfices de leur activité qui n'enjoye pas la création. Quand on réfléchit au fait que nous sommes dans une même fratrie et que cette fratrie est habitée par la plénitude, rappelle l'Épître aux Colossiens. Notre rapport au monde, notre rapport au reste du monde est susceptible de se convertir. Comment oser dire que la nature est habitée dans la plénitude quand nous la martyrisons? De quelle manière permettons-nous vraiment de porter l'ensemble de la création à son point d'accomplissement, à sa plénitude? Ne sommes-nous pas le plus souvent dans un rapport de suprématie vis-à-vis de l'environnement? N'aurions-nous pas compris cette invitation du début de la Genèse à dominer la création comme à en être les maîtres tout-puissants qui puisent sans vergogne? Le réformateur Jean Calvin, loin de l'épouvantail qu'on en a fait, était particulièrement sensible au rapport que nous entretenons avec la nature. Reprenant la formule de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, il rappelait qu'il faut user du monde comme n'en usant pas. Manière de dire qu'il ne faut pas épuiser le monde, qu'il ne faut pas le piller, qu'il s'agit de ne pas voler à Dieu ce qui ne nous appartient pas. Ne pas utiliser le monde pour des choses dont nous n'avons pas fondamentalement besoin. En précisant, je le cite, qu'il faut savoir se tenir modérément en abondance et avoir bonne patience en pauvreté, Calvin insistait sur notre responsabilité à l'égard d'une consommation, d'une manière de vivre qui serait irréfléchie et inconséquente. De cela découle une éthique possible. Une éthique qui tient compte de l'ensemble de la création. Notre vocation personnelle, notre manière de conduire notre vie, nos choix professionnels, nos choix privés seront d'autant plus éthiques que nous tiendrons compte de ces paramètres pour que nous ne privions pas de plénitude une partie de la création. Et cela, voyez-vous, nous pourrions le porter encore mieux de manière communautaire. en faisant de notre diaconie aussi une éco-diaconie. Si on se souvient que éco, c'est oikos, et donc une diaconie de la maison, une diaconie de la maison terre. Une diaconie qui enjoy l'ensemble de la création que nous avons à portée de main. Nos scouts agissent déjà en ce sens. Les éclaireuses et les éclaireurs unionistes sont particulièrement engagés dans ce processus-là. Quant à nous, nous avons non seulement des moyens matériels et financiers, mais aussi des moyens humains pour incarner cette éthique responsable. De même que nous nous efforçons d'améliorer le quotidien des personnes, nous pourrions nous efforcer d'améliorer également le quotidien du reste de la création, non pas seulement en respectant l'environnement, en faisant attention à notre consommation d'énergie, et voyez, tous les lustres ne sont pas allumés ce matin, en évitant les gâchis, en favorisant les transports en commun. J'espère que vous n'étiez pas seul dans votre voiture ce matin. Donc, pas simplement en respectant, en limitant les dégâts, mais en aimant la création, en aimant notre fraternité élargie, et en prenant soin, en améliorant tout ce qui peut l'être, en participant à l'enjoyment avec d'autres. En nous engageant sérieusement dans cette voie éthique, en mettant en acte ces convictions théologiques qui sont au cœur de notre foi, nous pourrions être un facteur d'entraînement positif pour d'autres communautés, religieuses ou non. Nous pourrions ressusciter de l'espérance, l'espérance de quelques-uns qui pensent qu'on ne peut plus rien faire pour arranger les choses, que tout nous échappe. En reprenant la main sur des situations où nous pouvons intervenir, nous pourrions montrer qu'il est possible de poursuivre le dynamisme créateur dont les textes bibliques se font l'écho. Nous pourrions être agents de cette créativité qui porte toute chose à son accomplissement. Ce n'est pas nous seuls qui rendrons la Seine propre à la baignade. Mais nous pouvons prendre notre part à ce travail d'enjoyment qui rendra notre monde, sous toutes ses facettes, toute la création, autrement plus vivable. Amen. La moisson sera d'autant plus grande que nous prendrons soin de la création. Chantons ce cantique 222, les strophes 1, 2 et 3. Avec l'évolution des technologies, les vieux dictons ne sont plus toujours aussi justes. Fut un temps où on disait « les écrits restent et les paroles s'envolent ». Mais maintenant, avec Internet, les écrits peuvent disparaître. Et donc, c'est ce qui est arrivé sur le site Internet de Marion Maréchal Le Pen, qui dimanche dernier au Pontet a eu quelques mots pour honorer la résistance de la Provence face à la réforme protestante. Je ne m'étendrai pas sur les massacres du Luberon, sur les milliers de morts, les villages rasés, etc. Toujours est-il que suite à la protestation du président de la Fédération protestante de France, cette mention a été retirée. Dans notre calendrier de la semaine, eh bien, juste après le culte, nous aurons l'occasion de nous retrouver dans la grande sacristie pour un verre fraternel, l'occasion de tisser des liens fraternels déjà entre nous, ce qui nous donnera de l'allant pour la suite de la fratrie. Marc Verstraat est le conseiller presbytéral d'accueil aujourd'hui. Si vous avez quelques questions, quelques remarques, vous pouvez vous adresser à lui. Mercredi, la lecture biblique à 12h30 dans la salle Roberti, donc dans la maison presbytérale en face aux 4 rues de l'Oratoire, sera consacré à cet aspect de la prière qui est porté dans ce dialogue entre Abraham et Dieu au moment de l'épisode de Sodome et Gomorre. Je l'ai intitulé « Interagir avec Dieu ». La vérité est que c'est en fait une négociation de marchand de tapis. Ce sera l'objet de notre étude. Dimanche prochain, le culte est à 10h30, comme d'habitude. C'est maintenant le moment de l'offrande. L'offrande est précisément destinée à notre service d'entraide. Eh bien voilà, une façon de participer à une diaconie d'ensemble. Nous nous unissons dans la prière. Là où des familles sont divisées par des crises internes, là où les enfants sont contraints à descendre dans la rue pour lutter afin de survivre, là où plus de ressources sont dépensées en armes et en actes de destruction, et où moins d'attention est accordée à la maladie et à la faim, viens, Saint-Esprit. Soigne nos blessures. Renouvelle toute la création. Là où l'achat de biens matériels est devenu une obsession, et là où la valeur de l'être humain se mesure sur ce qu'il possède, là où l'air, les arbres, les océans sont assaillis par la pollution et où l'avidité aveugle et mercenaire menace notre environnement, viens, Saint-Esprit. Soigne nos blessures. Renouvelle toute la création. Là où des pays sont divisés par les conflits, le racisme, là où le sang d'innocents est répandu par des actes absurdes de terrorisme, là où des guerres de destruction réciproque opposent des nations entières. Viens, Saint-Esprit. Soigne nos blessures. Renouvelle toute la création. Et saisis-nous dans cette dynamique créatrice. Rends-nous capables d'être les artisans de l'enjoyment de ta création. Et pour nous mettre à bonne école, nous faisons nôtres ces mots que Jésus, autrefois, a enseignés à ses disciples. Et nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.